Et l'invité de Radio Classique est dans notre studio. Bonjour Raja Chatila.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes un grand expert de l'intelligence artificielle et de l'éthique au Comité Consultatif National d'Éthique, à Sorbonne Université, à l'initiative mondiale I3E, ainsi qu'au Global Partnership on Artificial Intelligence. Ce lundi se tient le RAISE Summit. Il y a un jeu d'écriture puisque le A et le I sont mis en exergue dans le mot RAISE. AI comme Artificial Intelligence, l'IA en français, des représentants des grands noms du secteur, Mistral, Qtech, Google, Amazon, Nvidia. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde tire à peu près dans le même sens dans ce monde émergent de l'intelligence artificielle et dans les questions qu'il pose ?
Tirer dans le même sens, c'est beaucoup dire peut-être. Bonjour, d'abord, merci de m'accueillir. Je voulais préciser que je suis membre du Comité National Pilote d'Éthique du Numérique.
Qui est un peu une émanation du Conseil Consultatif National d'Éthique.
Voilà, qui est lui en sciences de la vie et de la santé. Et donc, il y a effectivement, de toute façon, dans ce domaine, qui est un secteur extrêmement dynamique économiquement, beaucoup de nouvelles productions, de nouvelles méthodes, de nouveaux produits qui arrivent. Et en même temps, il y a bien sûr une démarche qui est une démarche de réglementation pour mettre un peu d'ordre dans tout cela et faire en sorte que les choses progressent dans le bon sens. Et en particulier, puisque vous parlez de RAISE, il y a aussi un certain nombre d'applications qui sont là pour traiter les problèmes de soutenabilité, de changement climatique, par exemple, qui peuvent être une production très intéressante de l'intelligence artificielle, malgré ses effets négatifs, qui sont aussi des émissions, par exemple.
Oui, la question de l'éthique, des risques potentiels est énormément évoquée quand on parle d'intelligence artificielle dans le débat grand public, et c'est pour cela que nous vous avons invité. L'IA est une rupture aussi du point de vue de son appréhension éthique.
Alors, l'IA a ceci de particulier, c'est que d'abord, elle est, comme son nom l'indique, faite pour simuler l'intelligence, et évidemment l'intelligence humaine. Donc déjà, rien que poser ces deux termes, il y a tout de suite une interrogation, évidemment.
Un vertige.
Une réflexion sur est-ce que déjà l'intelligence artificielle est effectivement comparable à l'intelligence humaine? Est-ce que elle simule effectivement les mécanismes d'intelligence humaine? Tout ça n'est pas du tout prouvé, loin de là d'ailleurs. C'est l'objectif, c'est un programme de recherche, si vous voulez, qui est là depuis les années 50.
C'est un peu plus aujourd'hui, mais c'est commercialisé, on peut s'abonner, 23 euros par mois, vous avez ChatGPT fort, bon.
Et oui, et donc ce programme de recherche a donné des résultats, effectivement, toujours relativement éloignés de l'intelligence humaine cependant, mais des résultats qui sont suffisamment performants pour arriver sur le marché et être des outils, avec toutes les précautions à utiliser, bien sûr, à utiliser avec toutes les précautions qu'on doit prendre pour utiliser ces nouveaux outils qui sont pas complètement maîtrisés.
Oui, et la rapidité avec laquelle le sujet évolue, promet de nouveaux champs d'application, fait qu'il est plus difficile encore d'analyser, d'un point de vue éthique, l'intelligence artificielle que de précédentes technologies.
Oui, c'est certain. La temporalité est différente.
C'est-à-dire qu'il y a dans 10 ans, rien à voir sans doute avec ce que nous connaissons aujourd'hui.
Probablement, parce que effectivement, enfin, l'avenir nous le dira, mais toutes ces technologies, par exemple, que nous utilisons aujourd'hui, qui sont basées sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine, eh bien, l'apprentissage machine, c'est des techniques qui traitent des données en grande quantité pour essayer de en faire sens. Eh bien, ces technologies, en fait, existaient sur le plan de la recherche depuis les années 80-90, mais elles ne sont arrivées véritablement à une certaine maturité pour être mises sur le marché qu'il y a une dizaine d'années. Et en 10 ans, on est passé de quelques systèmes qui sont capables de reconnaître ce qui se trouve sur des images à ChatGPT qui est capable de produire de la langue naturelle.
Par exemple, pour parler de ces craintes autour de l'IA, il y a quelques jours, OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, dévoilait un nouvel outil baptisé Voice Engine, capable de cloner la voix de n'importe qui avec à partir d'à peine 15 secondes d'enregistrement de cette personne. Et j'étais marqué de voir que tous les articles qui en parlaient listaient aisément les problèmes potentiels posés par cette technologie et jamais les opportunités. C'est-à-dire, à quoi ça allait servir finalement de positif?
Alors ça, c'est plus difficile, enfin dans ce cas particulier, à expliquer. Mais il est clair, par exemple, que si un exemple, le doublage de films, vous pouvez doubler un film dans une autre langue avec la voix de l'originale de l'acteur, par exemple.
Oui. On pourra entendre Brad Pitt en italien, en français, en chinois, en tout ce qu'on veut.
Si vous voulez. Alors, c'est peut-être pas la plus grande application, mais de manière générale, il faut regarder le principe de fonctionnement. Ça veut dire, avec très peu de données, finalement, on peut généraliser à cause d'un apprentissage préalable, et reproduire des données qui sont très ressemblantes à cette, à ce premier ensemble.
Autre sujet qui fascine et qui fait peur à la fois, et vous avez beaucoup travaillé cette question, Rajesh Attila, les véhicules autonomes, la voiture qui se conduit toute seule. Quand je commençais dans le journalisme il y a 10 ans, on nous disait qu'en 2020, elle serait partout sur nos routes, dans toutes les grandes villes du monde. Finalement, pas du tout, et on dirait même que l'attente et l'effet de mode soient retombés. Et j'ai l'impression que ça n'est pas un problème technologique, mais bien de questionnement éthique ou philosophique sur cette voiture autonome et sur les questions qu'elle pose. Qu'est-ce que vous en dites ?
Alors, c'est les deux. D'ailleurs, le questionnement éthique vient des problèmes et des limitations technologiques, en particulier. Il ne vient pas d'un principe a priori qui dirait que les voitures ne devraient pas être conduites toutes seules. Et pourquoi ? Alors, parce que justement, ces systèmes ont des limitations à cause de leur nature statistique. Donc, en trois mots, traitement statistique de données. Les données, c'est les images, etc. Donc, ça signifie quand on fait que quand on fait des corrélations, quand on fait des traitements statistiques, on peut se tromper. Et ces systèmes se trompent, par exemple pour reconnaître des panneaux routiers, c'est juste un exemple, bien sûr, d'une manière qui est relativement imprévisible. C'est ça qui est un problème. Mais pour revenir plus généralement à la véhicule à conduite automatisée, il s'agit en fait de remplacer le conducteur humain. On peut se poser la question, est-ce que véritablement le remplacement du conducteur humain par un système automatique va empêcher les accidents, empêcher la perte de vie qui est celle du résultat de la du trafic routier? Ce n'est pas prouvé, mais surtout la mise, quand on voit
sur
la
le papier, oui, parce que forcément une voiture va anticiper instantanément, elle va même communiquer avec la voiture qui arrive en face, et donc elles vont forcément éviter toute collision. Donc sur le papier, dans un monde où la technologie est parfaite, il n'y a plus d'accident même.
Je dirais ça, c'est dans un monde idéal futur, voilà. du genre.
Faut juste qu'il n'y ait plus de chevreuils qui traversent la route.
Voilà. Exactement. Or, justement, il y a dans les villes aujourd'hui, en particulier dans les villes européennes, par exemple, beaucoup d'activités dans les routes autres que les voitures. D'ailleurs, on essaye de limiter aussi le nombre et la vitesse des voitures pour cela. Et c'est toute cette activité, elle est difficile à comprendre, à appréhender. Les voitures à conduite automatisée sur autoroute où tout le monde roule dans le même sens avec une vitesse relativement comparable, oui, ça c'est à portée. Mais quand on a une complexité croissante, complexité de la perception, de la décision, eh bien là, ce n'est pas complètement au point. Alors, le fait que ça fait 10 ans qu'on en
parle... Mais ça va l'être, c'est ça la question. C'est quand on voit les progrès de la médecine, de la technologie en général, on imagine que ça va l'être à une échéance qui reste à déterminer.
D'abord, il n'y a pas de fatalité dans ce domaine, et ensuite, on ne sait pas exactement vers quoi ça va aboutir, oui. Si vous voulez. Par exemple, aujourd'hui, quand on considère les voitures à conduite automatisée, certains réfléchissent à la conduite à distance. C'est-à-dire que pour éviter justement des problèmes particuliers ou éviter le fait que le passager qui n'est plus un passager parce qu'il ne sait même pas conduire soit dans des situations difficiles parce que la voiture a fait quelque chose qui n'était pas complètement prévu, il y ait à distance des personnes qui sont en train de surveiller tout le trafic et qui sont des contrôleurs, quoi, qui peuvent intervenir. Donc imaginez la complexité. Ça, ce n'était pas imaginable au départ quand on parlait de conduite automatisée, c'était les voitures qui roulaient partout. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce retard, disons, par rapport à ce qui était annoncé, est dû véritablement à des difficultés technologiques, ce qui fait qu'on n'anticipe pas toujours tout, et c'est aussi dû au fait qu'on s'interroge toujours économiquement sur la viabilité de ce passage à la conduite automatisée.
Est-ce que tout ce qu'on vient de se dire pose la question, finalement, Rajesh Attila, de quel monde voulons-nous ? C'est-à-dire un monde où éventuellement la technologie peut nous conduire de manière propre, au sens propre et au figuré, et gérer les risques à notre place.
Oui, la technologie ne gérera pas les risques à notre place. C'est un outil qui nous permettra de mieux gérer les risques présentés par cette même technologie, d'ailleurs, ou d'autres. Nous utilisons tous les jours de la technologie pour mieux gérer nos risques. Tout ce qui concerne, par exemple, le contrôle aérien, c'est de la technologie très avancée pour essayer de gérer les risques du trafic aérien. Ce qui serait une faute de notre part, c'est de laisser la technologie faire, plutôt que de contrôler comment elle fait et de la contrôler dans notre selon nos valeurs et selon nos préférences sociales.
Le risque existe ?
Ah, le risque existe, il est clair, parce que c'est facile. C'est facile d'être paresseux, si vous voulez, de laisser faire la technologie. C'est facile aussi de croire qu'elle est plus puissante qu'elle n'est, parce que justement, elle présente des défauts. Il ne faut pas croire que c'est une technologie absolument supérieure à l'intelligence humaine, qui a une autre capacité d'appréciation et d'analyse. Et donc, il faut toujours garder en tête que c'est les humains qui doivent décider de leur avenir. Et quand ils abandonnent à la machine qui prend des décisions de manière automatique, même si ces décisions paraissent parfois correctes, même si ces décisions sont tout à fait efficaces parfois, eh bien l'abandon de cette de ce libre arbitre humain, si vous voulez, eh bien ce serait la pire des choses.
L'Europe s'est dotée d'un IA Act, donc une réglementation que l'on peut juger soit trop stricte par rapport à la Chine et aux États-Unis qui innovent avant de réglementer, soit qui serait forcément trop vite dépassée. C'est un peu le débat du moment. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il faut souligner que la Chine et les États-Unis aussi ont adopté des réglementations. Elles sont différentes. La Chine a toute une panoplie de réglementations, pas une seule loi concernant l'intelligence artificielle, mais elle a réglementé aussi même avant nous. Les États-Unis, il y a en particulier un décret du président Biden qui date d'octobre dernier, qui aussi met un certain nombre de garde-fous au développement de cette technologie. Alors l'Europe, elle a fait une loi compréhensible, une loi globale qui a été votée le 13 mars dernier dans sa formulation par le Parlement. Et cette loi, elle s'applique selon le niveau de risque de la technologie. Donc, il y a 4 niveaux de risque, si vous voulez. Et plus le risque est élevé, et plus il y a des obligations. La première obligation pour le niveau de risque le plus élevé, c'est l'interdiction. Donc, il s'agit là, effectivement, d'applications qui sont contraires aux droits européens. Par exemple, la notation sociale, ce qu'on appelle la notation sociale. Mais ensuite, quand on descend dans le niveau de risque, il y a les systèmes dits à haut risque. Alors, cela risque... Il faut parler de risque. De quoi? À quoi? Il s'agit de risque à la santé humaine, aux droits humains et à l'intégrité humaine. Et dans ce cas, on exige une certification. Ce qui est tout à fait compréhensible dès lors que ce sont des systèmes qui mettent en cause donc la santé humaine, par exemple, des dispositifs médicaux. Et quand on descend dans le risque, on exige de moins en moins de choses. Donc la majeure partie des applications n'aura aucune obligation pratiquement. Et puis certaines dans la basse couche ou la couche moyenne, elles auront des obligations de transparence. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une réglementation excessive. Après sa mise en application, bien sûr, elle va prendre du temps. Les premiers éléments, la partie interdite, c'est dans 6 mois, après l'adoption finale du texte. Ensuite, dans 1 an, dans 2 ans, on aura le temps de s'habituer à la mise en œuvre de cette loi.
Raja Chatila, merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Classique, membre donc du Conseil National Pilote d'Éthique du Numérique, entre autres casquettes, que vous en avez beaucoup, vous êtes dans beaucoup de comités d'experts au niveau européen et mondiaux. Merci Raja Chatila, invité ce matin de Radio Classique. Très bonne journée à vous, il est 8h29.